Europe 1,
bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Julia Vignali.
Bonjour Mélanie Gomez, bonjour à tous.
Je suis très heureuse de vous retrouver dans Bien fait pour vous, votre émission Feel Good, Mieux Vivre. Comme chaque jour, c'est jusqu'à midi. Aujourd'hui, Julia, on va parler de quoi?
Eh bien aujourd'hui, dans notre magazine, nous allons mettre à l'honneur la langue française. Et on vous pose d'ailleurs cette question. À l'écrit, à l'oral, savez-vous vous exprimer avec style? Je vous rassure, on ne va pas retourner sur les bancs de l'école ce matin, mais on va simplement revoir certaines bases, vous aider à éviter certaines erreurs les plus fréquentes, car quoi qu'on en dise, c'est toujours important en 2022 d'écrire correctement et de savoir s'exprimer avec aisance. Et nos profs du jour, ce seront Julien Soulier, expert au projet Voltaire et ancien professeur de lettres classiques, ainsi que Julien Barré, linguiste spécialisé en rhétorique, formateur en prise de parole. Et après cela, Mélanie?
Eh bien, à 11h45, ce sera notre quart d'heure des bienfaiteurs. Un bain forêt, ça vous dit, Julien?
Oh, avec plaisir, on va faire des câlins aux arbres.
Oui, avec Cécile Coumont, on fera le point sur les bienfaits de la sylvothérapie.
Ah oui.
Préparez-vous à apprendre à câliner les arbres ce matin. Et puis, deuxième bienfaitrice du jour, ce sera Perla Servan-Schreiber, qui est avec nous tous les vendredis pour sa chronique gourmande. Avec elle aussi, on se régalera en forêt d'une certaine façon, puisqu'elle va nous révéler tous ses secrets pour bien cuisiner les cèpes cette saison. Et c'est surtout délicieux. Nous sommes avec vous jusqu'à midi. Bien fait pour vous, c'est maintenant.
Europe 1.
Vous êtes sur Europe 1, ici Julia et moi, on prend soin de vous chaque matin. Notre question du jour, je vous le rappelle, à l'écrit, à l'oral, savez-vous vous exprimer avec style? Alors lui justement, il sait manier les mots à la perfection chaque matin pour nous faire sourire sur notre sujet du jour. Bonjour Clément Lanoux.
Bonjour Clément. Tout le monde, énorme pression en ce qui me concerne. Chaque jour j'essaie de trouver le bon mot. Aujourd'hui je suis en panique absolue. Attention, pas la moindre faute de français. Qu'est-ce que je vais trouver pour vous surprendre? Je suis désolé de vous décevoir, mais aujourd'hui je vais non pas faire un concours d'éloquence parce que je n'aurai pas le niveau, je vais tout simplement mettre à l'honneur les grosses fautes de français qu'on fait et les erreurs qu'on entend qui font hurler, voire pleurer les académiciens, qui peuvent les rendre suicidaires. Mais juste avant, puisque ça va faire très mal aux oreilles, ouais, avant que vos oreilles saignent directement, un petit peu de poésie, ça c'est comme un petit peu en sport, un échauffement. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Bon, Victor Hugo, on va s'arrêter là. Ça, c'était pour réchauffer l'oreille. Maintenant qu'elle est prête, voici les fautes qu'on retrouve le plus chez les Français, chez certains de mes amis, et parfois on entend même ça sur des radios. Attention, l'erreur la plus connue au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui,
oh,
elle fait
ça.
Mal. Donc
on a nos invités qui pleurent déjà.
Qu'est-ce qu'on doit dire? Que doit-on dire à la place?
Aujourd'hui même.
Aujourd'hui même, à ce jour, on peut l'accepter, c'est bon, c'est validé. Deuxième erreur qu'il a, même moi me fait grincer, ouais, je vais au coiffeur.
Voilà. Ah,
celle-là, je la déteste.
Je vais au coiffeur avec par exemple la voiture de Daniel.
La
voiture
à
Daniel, exactement. Même en voulant faire la faute, j'ai pas réussi. Il faut que je vais. On l'entend régulièrement.
On l'entend.
Je vais te faire montrer. Je vais faire montrer plutôt que de montrer. Ça arrive. Il y en a qui croivent.
Oui, c'est là. Les enfants la font beaucoup, je trouve.
Les enfants la font beaucoup. Les enfants qui nous écoutent, faudra plus la faire.
C'est ça.
Je sais pas c'est où. Je sais pas c'est où.
Ah, j'en ai un. Regarde c'est qui.
Voilà. Donc tout ça. Donc ce que je vous propose, je vais juste vous quitter avec un petit peu de poésie. Mais comme on y va progressivement, je l'ai adapté façon 2022.
Alors.
Au jour d'aujourd'hui, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai au coiffeur. Vois-tu, je sais que tu m'attends. Dans la voiture à Daniel. Il faut que je vais par la forêt, il faut que je vais par la montagne. Je ne puis me faire montrer loin de toi plus longtemps. Victor Hugo 2022, je suis désolé.
Ouais, Clément Lanoux.
Ça fait mal, hein.
J'ai les oreilles qui saignent, mais merci Clément Lanoux. Maintenant, place à nos spécialistes de la langue française.
Mais ils sont partis d'ailleurs, hein, parce qu'ils n'avaient pas envie d'écouter ça.
Ils sont sous la table. Bon, on accueille tout de suite Julien Soulier. Bonjour.
Bonjour Julia, bonjour Mélanie.
Vous êtes expert au projet Voltaire et ancien professeur de lettres classiques, auteur du livre Les Pourquoi du français, paru aux éditions First. Et puis à vos côtés, il y a également Julien Barré. Bonjour.
Bonjour à toutes les deux.
Vous êtes linguiste spécialisé en rhétorique, formateur en prise de parole et auteur de Parler avec style, paru également aux éditions First. Alors, Julien Soulier, je commence avec vous. C'était la rentrée des classes il y a quelques semaines. L'expression orale et écrite, c'est quelque chose qu'on associe encore beaucoup à l'école. Elles sont souvent mises en opposition, mais elles sont complémentaires, non? L'oral et l'écrit, il faut savoir faire les deux, non?
C'est un peu comme le pile et face d'une pièce, en fait. Bien évidemment, vous avez la langue et puis vous avez le versant oral, le versant écrit. C'est vrai qu'on aime bien les opposer, parce qu'il y a quand même des différences, bien évidemment. Vous ne vous exprimez pas, moi, personnellement, là maintenant, je ne m'exprime pas comme je m'exprime à l'oral avec mes amis, ou a fortiori à l'écrit quand j'écris un courriel professionnel ou quand j'envoie même un SMS à des amis ou à la famille. Donc il y a plusieurs, même dans l'oral ou même dans l'écrit, il y a évidemment plusieurs niveaux de langage, plusieurs façons de s'exprimer, et toutes ces situations de dénonciation, comme on dit en linguistique, ne sont pas les mêmes. Et donc effectivement, on s'adapte en fait. Voilà. Donc il y a des points communs, et puis il y a quand même de grandes différences malgré tout entre l'oral et l'écrit.
Julien, pardon, excusez-moi, vous êtes un ancien prof de français, vous êtes évidemment attaché à notre langue, passionné par le français. Vous avez écrit de nombreux ouvrages sur le sujet. Qu'est-ce qui rend, on va dire qu'on va poser les bases pour l'instant, qu'est-ce qui rend notre langue si belle mais à la fois si complexe? Qu'est-ce qu'on peut dire dessus?
Alors, moi je dirais personnellement, mais je l'aime déjà, donc forcément je suis pas forcément...
C'est biaisé.
Peut-être,
bah
oui, c'est un peu biaisé. Je l'aime effectivement pour sa complexité, sa subtilité, mais je comprends que pour d'autres ça puisse être un cauchemar. D'ailleurs, cauchemar, comment vous l'écrivez à la fin?
Avec un D, non?
Non, sans rien.
Eh ben, pas de D.
Mais c'est pas possible,
malgré
je quitte
cauchemar,
le projet. Je quitte le projet Voltaire et le projet Europe 1.
Donc, oui, voilà, donc c'est vrai qu'il y a...
Mais parce qu'on dit cauchemardé, mais ça n'existe
oui,
pas.
C'est ça, ben si, ça existe, cauchemardé, cauchemardesque, mais il y a un D qui s'est ajouté alors que cauchemar n'en prend pas. C'est un
vous
peu comme...
saviez, mais vous savez qu'il n'y avait pas de D en tout cas.
Ben voilà, donc il y a des petits pièges. Comme ça, il y a des choses comme ça qui font à la fois sa subtilité, à la fois sa complexité. Pour certains, c'est un plaisir. Pour moi, c'en est un. Mais pour d'autres, je conçois que ça puisse être aussi une difficulté, voire un frein parfois dans la vie quotidienne.
Julien Barré, est-ce que vous serez d'accord si je dis qu'un texte magnifique, s'il est lu de manière monocorde, perd beaucoup de sa saveur? Enfin, en gros, la question, c'est qu'est-ce qui fait qu'on est un bon orateur? C'est la voix, la gestuelle, le fait de ne pas dire en gros?
Je suis d'accord avec votre proposition qui consiste à parler de la variété du phrasé. Donc c'est ce que vous sous-entendiez, c'est-à-dire que il faut varier le rythme, l'intensité de la voix pour l'élocution, et l'art oratoire, la rhétorique de manière générale ne se cantonne pas à la seule voix ni à la seule parole entendue au sens de langue, mais c'est aussi le corps, c'est aussi la mémoire, il y a tout un tas de paramètres qui entrent en compte pour vous donner toutes les clés pour parler. C'est l'art de parler.
C'est l'art de parler, c'est ouais. Être un bon orateur. Est-ce que vous pensez qu'on est des bonnes oratrices?
Oui. Il y a intérêt à dire oui. Parce
vous ne seriez pas en train de présenter une émission quotidienne à la radio si vous n'étiez pas de bonnes oratrices. Et après, il y a peut-être la question de comment est-ce qu'on le devient, un bon orateur, une bonne oratrice.
En gros, ça se travaille. Hein.
Voilà, exactement, c'est du travail. Cette question, en fait, de
j'ai fait exprès, Julien, c'était de l'humour. Vous n'avez pas compris. Oh là là.
Cette question de l'inné et de l'acquis, elle est permanente et elle revient. Elle est déjà là dans le traité du sublime de Longin, qui pose déjà la question, c'est juste après Jésus-Christ, d'où vient l'inspiration? Est-ce qu'il y a une inspiration divine ou est-ce que c'est juste une technique? Est-ce qu'on est juste en train d'appliquer des règles pour apprendre à parler?
Mais et vous pensez que c'est plutôt des règles, vous?
Et je pense que de toute façon, comme le disait Mélanie, c'est surtout du travail. Et après, vous pouvez avoir un éclair d'inspiration, mais ça ne vient que à travers un exercice préalable.
Bon, ben on va travailler un petit peu ce matin, mais dans la bonne humeur. Vous restez avec nous, bien fait pour vous. Reviens très vite. Coup de projecteur aujourd'hui sur la langue française. On va vous donner quelques astuces pour briller à l'écrit et à l'oral. Les conseils qui vont suivre pourront même peut-être inspirer les plus jeunes. Donc restez bien avec nous sur Europe 1.
Vous êtes dans Bienfait pour vous et ce matin on se pose cette question. À l'écrit et à l'oral, savez-vous vous exprimer avec style? D'ailleurs, vous pouvez intervenir dans l'émission, nous poser vos questions au 3921, le répondeur d'Europe 1, ou même via le compte Instagram d'Europe 1.
Sur mes cahiers d'écoliers, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Seat Ibiza disponible sans apport et sans engagement à partir de 179 euros par mois.
C'est pas de toi ça.
Si, surtout la fin.
Découvrez l'offre lors des journées portes ouvertes les 17 et 18 septembre. Seat Ibiza Copa MPI 80 chevaux, remise de 4000 euros déduite, LLD 37 mois et 30 000 km sous condition d'acceptation par Volkswagen Bank. Tout mois commencé et dû, offre particulière sans engagement, commande jusqu'au 31 octobre, livraison avant 2023 selon stock. Conditions sur seat.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron, oh, ils sont vraiment terribles.
Ne me dis pas que tu veux me parler de Lidl.
Bah, comment vous avez deviné? En ce moment, les tomates dans le grappe sont à 1,69€ le kilo, patron.
Moins de 2€ le kilo, là tu me racontes des cracks.
Oh bah non patron, c'est le vrai prix, et elles sont origine France. Hein.
Tu me lâches la grappe, oui. On est déjà assez mal comme ça.
Oh bah oui, on est très mal.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Lidl, nommé meilleure satisfaction client 2022, catégorie distribution alimentaire, étude Louisville 2022. Catégorie 1, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Europe 1, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez, Julia Vignali.
De retour dans Bienfait pour vous, votre émission Feel Good Mieux Vivre, en compagnie ce matin de Julien Soulier, expert au projet Voltaire et ancien professeur de lettres classiques, et en présence également de Julien Barré, linguiste spécialisé en rhétorique, formateur en prise de parole. Julien Barré, vous êtes linguiste spécialisé en rhétorique. Vous pouvez nous rappeler ce qu'est la rhétorique d'ailleurs, à quoi ça sert ?
J'ai dit brièvement que c'était l'art de parler, mais on peut aller un peu plus loin. On peut dire c'est l'art du discours, on peut dire c'est l'art de parler pour persuader, pour convaincre. Et ça a été créé en Grèce il y a un peu moins de 2500 ans, puis les Latins l'ont formalisé. Et on a un auteur qui s'appelle Quintilien. Ça me fait penser d'ailleurs quasiment à des livres de développement personnel, des livres qui s'écrivaient à l'époque. Par exemple, l'Institution oratoire de Quintilien, où on vous dit... comment vous devez vous tenir, quasiment des exercices de comédien, d'articulation, comment il faut... Tout ça est très concret. Donc il y a 5 parties qui sont très concrètes. D'abord, il y a l'inventio. Vous devez trouver les idées. Il faut avoir quelque chose à dire. C'est des mots latins. Ensuite, elocutio, c'est le style. Il faut mettre en forme ces idées. Une fois que vous les avez trouvées, en troisième position, vous avez l'organisation des idées. C'est la disposition. Et ensuite, il y a la mémoire. On a un peu perdu ça, puisque précisément, on est aujourd'hui dans une civilisation de l'écrit. Mais ça, à l'époque, on était plus dans la mémoire. Donc, il faut retenir son discours. Et enfin, l'axio, c'est-à-dire la mise en scène, le corps.
On est d'accord qu'on ne fait pas de rhétorique aujourd'hui à l'école. Enfin, moi, je n'ai pas appris l'art de la rhétorique. On nous fait faire des exposés qu'on apprend bêtement, ou alors faire des poésies. Mais
exactement.
On ne nous apprend pas bien à les dire, à être à l'aise avec les mots.
Pendant tout le XXe siècle, on a eu, grosso modo, des récitations de perroquets, de poèmes. Mais aujourd'hui, on retrouve quelque chose, c'est l'art d'écrire. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des ateliers d'écriture où vous allez pouvoir écrire vous, et prendre la parole, écrire vos propres... dire ce que vous avez écrit.
Mais dites-moi, Julien, quand je vous entends, la drague, c'est de la rhétorique, non ?
Il y a une dimension rhétorique dans la drague, puisque la conviction, emporter la conviction, bah, ça peut être aussi séduire. Mm-hmm. Et il y a différentes dimensions dans la séduction. Vous pouvez avoir, ça c'est dit dans les magazines féminins, masculins, il y a parfois une sorte de mimétisme du corps. Donc moi, je vais faire comme vous, je vais faire le même truc avec le stylo. Je peux utiliser des métaphores amoureuses, ou alors je peux... essayer d'adoucir le son de ma voix. Donc la voix, le lexique, la disposition du corps, tout va entrer en compte pour parvenir à ce but de séduction, par exemple.
Bon, on en connaît quelques-uns qui sont forts en rhétorique.
Oui, ou qui se caressent les cheveux en parlant, là.
Moi, je le fais souvent.
Oui, j'ai
eu. C'est ça, vous pensez que c'est... Oui, d'accord. On en reparlera. Julien Soulier, vous êtes notre expert en orthographe. Alors, la rhétorique, déjà, ça s'écrit comment ? Vous pouvez nous rappeler ?
Avec un D à la fin.
Il y a un H ou pas ?
Comme Julien l'a très bien dit, effectivement, c'est un mot grec. Donc, vous savez, quand il y a un mot grec, il y a toujours une lettre vicieuse à un moment donné. Il y a un Y, un H. Donc là, effectivement, il y a un H.
Mais il y a un moyen mnémotechnique pour le retenir.
Et le H, il est après le R. Il n'est pas après le T, il est après le R. Donc, ça vient d'un vieux verbe grec qui voulait dire énoncer. La rhétorique, donc les rhéteurs dans l'Antiquité, c'était les professeurs d'éloquence. Donc toute cette racine-là parle d'énonciation et de dire, en fait.
Donc R-H. Et on
moi,
le retient comment,
pour
ouais.
le retenir, alors je me dis que quand on a un entretien d'embauche, il faut être doué en rhétorique avec la D-R-H.
Ah. DRH. Oui, mais alors moi j'ai un autre problème, mémotechnique. Vous l'écrivez comment ?
Alors, c'est pas mémotechnique. C'est vrai qu'on a tendance à dire mémotechnique parce que ce qu'il faut savoir quand on déforme des mots comme ça, en fait, on essaie de rapprocher inconsciemment de choses qu'on connaît. Oui. Donc mémotechnique, bien évidemment, ça a rapport avec la mémoire. Donc on rapproche de la racine latine.
Et pas du tout.
Bah oui,
moi je retiens mnésique, alors je sais qu'il y a rien.
Exactement. Ouais. Et en fait, c'est mnémo. En remontant très loin en indo-européen, c'était la même racine, hein, le grec et le latin, mais ça vient de la racine grecque mnemos, qu'on retrouve d'ailleurs qui vient de mnemosyne, petite parenthèse étymologique. Mnemosyne, c'était la déesse de la mémoire, et c'est une des innombrables conquêtes de Zeus, avec qui elle a eu 9 déesses, qui sont les 9 muses, en fait, donc les divinités personnifiant les arts. Et donc, mnémotechnique, c'est effectivement mnémotechnique, et en fait, vous le retrouvez, donc quand on a un moyen mnémotechnique, ça permet de combattre l'amnésie.
Ah, donc le MN.
La même racine, ce MN, c'est vraiment la racine de la mémoire en grec.
Alors, retenez le mot amnésie. Oui, attendez, ouais. On ne dit pas mnémotechnique, on dit
comme dans amnésie.
D'accord, voilà, c'est ça.
J'apprends des choses.
Julien Barré, vous êtes formateur en prise de parole et vous êtes particulièrement attaché, je crois, à des formes d'expression orale comme le rap, le slam, l'humour, mais aussi le stand-up. Pourquoi ça ? Je pensais que vous étiez plus désuet que ça, hein ?
Ouais, non. Ça, c'est un débat qui va commencer à apparaître, je pense, parce qu'il y a le grand oral au bac, toute cette histoire revient, alors que pendant 100 ans, en gros, il y avait une classe qui s'appelait la classe de rhétorique, qui a été supprimée en 1902.
Il a dit en gros.
Hein. Oui, il a dit en gros.
On n'a pas le même point de vue, les linguistes, que vous, sur le bon usage, sur le papier qu'a fait Clément tout à l'heure, oui. Sur il ne faut pas utiliser telle chose et telle chose. Je pense qu'on est un peu plus libre. L'oralité a disparu de l'école, la prise de parole a disparu, elle revient aujourd'hui. Et il va y avoir un débat qui va se présenter, opposant des gens traditionnalistes, des gens de l'université, qui sont des professeurs de rhétorique ou d'histoire ancienne, qui vont dire, voilà, il faut... valoriser les anciennes formes de l'art oratoire classique, du discours, etc. Et ensuite, vous avez des gens qui sont plus dans la pratique que dans la théorie, des comédiens, des slameurs, même des avocats avec le concours d'éloquence qui évolue dans sa forme, alors qu'il vient d'un exercice du 19e siècle pour les avocats. Vous avez des nouvelles formes de la parole et de l'art poétique qui sont le rap, le slam, le stand-up, et qui, de mon point de vue, manifestent une évolution des codes, des formes de la parole.
Mais Julien Barré, ou Julien Soulier, le Julien qui veut. moi, je me souviens que quand je devais aller à l'école, vous savez, au tableau, réciter une poésie. Mais
j'adorais, moi.
Vous adoriez ?
J'adorais ça.
Ah, mais moi, je voulais me planquer, c'était horrible. Comment on peut donner envie aux enfants de prendre la parole devant tout ?
Vous avez pris votre revanche, déjà.
Ouais, oui, j'ai pris ma revanche, mais quelle angoisse. Comment on donne envie
aux enfants ? Un petit conseil pour nos plus jeunes, en tout cas les parents qui ont des jeunes. Là,
je l'ai évoqué, mais grosso modo, on n'est plus dans la récitation. Vous apprenez par cœur le poème de Victor Hugo, et là j'ai bien aimé par ailleurs son remix qu'il a fait à la fin, c'était plus créatif. Mais voilà, c'est ça, aujourd'hui on pourrait réécrire un poème, on pourrait s'approprier quelque chose. À partir du moment où c'est vous qui allez prendre la parole, prendre la plume pour écrire, ça peut être un des moyens. Mais il existe pas mal de choses, peut-être que
comment là on a parlé de l'oral, mais comment on peut les aider à aimer l'écrit même aussi, écrire des récitations, pas des récitations, mais des dissertations.
Comment
c'est lourd
quand vous étiez prof, ouais. Comment vous faisiez
Oui, moi j'étais prof au collège, donc c'est vrai que c'est dur de les sensibiliser à l'écrit, enfin de leur faire aimer ça.
Moi je sais qu'il parfois là, il a écrit 10 lignes là-dessus et il va pas avoir de plus. Il me dit c'est 10 lignes, c'est pas 12.
Non, okay, c'est vrai que souvent on leur fait violence en fait quand on leur demande d'écrire quelque chose, parce que eux les écrits qu'ils pratiquent sont les écrits, les SMS, les choses comme ça, les réseaux sociaux. Et donc c'est vrai que quand on leur demande un écrit plus académique, plus traditionnel, c'est vrai qu'il y a une grande difficulté. Je pense qu'il faut déjà dédramatiser, il faut effectivement prendre en compte, entériner leur façon d'écrire à eux, c'est-à-dire ne pas les stigmatiser systématiquement parce qu'ils ont utilisé une abréviation, parce qu'ils ont utilisé un terme arabe, parce qu'ils ont utilisé un terme familier. Il faut les désinhiber là-dessus, en fait. Alors c'est vrai que l'institution scolaire, c'est là où c'est un peu difficile, c'est qu'il faut trouver un entre-deux entre le langage plus académique, plus traditionnel, plus normatif de l'institution scolaire, et de l'autre côté, un langage qui peut être créatif. Mais par exemple, moi je n'avais rien contre, je pouvais leur demander d'écrire un texte en SMS, ou moi je leur donne en SMS, et puis le réécrire en français, français traditionnel. Ou même sur le contenu, par exemple en troisième, quand ils ont des stages à faire en entreprise, au lieu de leur demander la traditionnelle lettre de motivation, je leur demandais de se lâcher et de m'écrire une lettre d'anti-motivation. C'est-à-dire, monsieur le maire, vous me proposez tel emploi? Non, moi je ne viendrai surtout pas parce que je déteste me lever tôt.
Je coûte beaucoup trop cher.
C'est ça, je coûte beaucoup trop cher, parce que les vacances se sont passées, voilà. Et donc, en les faisant travailler comme ça sur des exercices qui sont un petit peu décalés, ouais. Je pense que vous pouvez leur donner le goût, malgré bien tout, sûr. De la langue, de l'écrit et de se faire plaisir aussi.
Il y a pas mal de dispositifs de nouvelles formes qui arrivent. Moi aussi, j'interviens au collège, au lycée, à la fac, pour faire aussi bien des ateliers d'écriture que des ateliers de prise de parole. Il y a un truc qui fonctionne très bien en ce moment, je ne sais pas si tu l'as expérimenté, c'est remettre la joute oratoire sur le devant de la scène. Alors vous avez le concours d'éloquence, qui est une forme de fausse plaidoirie juridique, mais plutôt à visée divertissante. Mais vous pouvez avoir ce qui était mis en scène dans le film Ridicule, des duels de mots d'esprit. Oui. De bourrimé, c'est-à-dire vous pouvez écrire, ou de haïku par exemple, qui existe sur les scènes de slam. Le slam, c'est une scène ouverte où vous écrivez un poème, vous avez 3 minutes pour le dire. Et donc je suis arrivé dans des collèges et on a fait des batailles de compliments.
Qui est
l'inversion de la bataille de ta mère sur le versant positif, évidemment.
Oh, qu'est-ce que tu es belle, Mélanie.
Mais vas-y, qu'est-ce que tu me dis là ?
Non, t'es censé me faire un compliment, on fait une battle.
Elle a pas compris le principe. Je crois.
La suite après.
Allez, c'est pas grave. On tente d'améliorer notre niveau de langue française ce matin à l'écrit et à l'oral. On va vous donner notamment quelques conseils pour mieux manier l'humour, de quoi challenger les meilleurs artistes de stand-up, améliorer votre punchline. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Vous êtes avec nous peut-être depuis 11h et on vous en remercie à l'écrit, à l'oral. Savez-vous vous exprimer avec style ? On vous propose justement de vous améliorer aujourd'hui grâce à Julien Soulier, expert au projet Voltaire et ancien professeur de lettres classiques, ainsi que Julien Barré, linguiste spécialisé en rhétorique, formateur en prise de parole. Alors Julien Soulier, vous avez écrit plusieurs bouquins pour décrypter les mystères de la langue française qui nous paraissent parfois quand même ces mystères très alambiqués. Par exemple, il y a les lettres muettes dans certains mots. Je prends l'exemple du mot doigt ou du mot poids, donc avec le GT, le D. Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'elles font là, ces lettres ?
Non, mais D, poids. Le poids, ça s'écrit avec un S à la fin.
DS, oui, le poids DS. Sur la balance.
C'est ça, vous, ouais. Vous m'avez mis le doute.
Non, je parlais du poids sur la balance.
oui, non, mais il faut savoir qu'effectivement, il y a énormément de lettres muettes en français à la fin, parfois non, dans Cauchemar, mais il y en a beaucoup. Et puis au milieu, comme ça, c'est vrai que l'automne, il y a ce M un peu étrange, un sculpteur, il y a un P, voilà. Donc on a pas mal de mots. Bah, tout ça, ça remonte à la fin du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, il faut savoir qu'en gros, le français, c'était une langue phonétique. Donc si vous aviez fait une dictée à l'époque, tout le monde aurait eu 20 sur 20. Il n'y avait pas de faute possible.
Génial.
Par exemple, chanter, le verbe chanter, alors on ne sait jamais si c'est E accent aigu, ER. Bah, à l'époque, chanter, ER, ça se prononçait chanter.
Oh.
Donc on prononçait toutes les lettres. Et puis à un moment donné... on s'est retrouvé donc avec des lettres qui ne se sont plus prononcées et on s'est retrouvé avec beaucoup d'homonymes. Par exemple, pour poids, on avait trois poids en ancien français. On avait le poids qui pèse, P-O-I-D-S maintenant. On avait la poix, la matière visqueuse, P-O-X maintenant. Mmh. On avait le petit poids, P-O-I-S. Ben, les trois s'écrivaient de la même façon. Et à partir du 14e, 15e siècle, des grammairiens se sont dit « Non mais, attendez, quand on voit ces mots, il faut qu'on arrive à les distinguer du premier coup d'œil. Sinon, ça ne va pas marcher, on va en avoir des millions, on va s'y perdre. » Et donc, ils se sont retournés un petit peu vers ce qui s'était passé 1500 ans avant en latin, et ils sont allés chercher des lettres étymologiques, on appelle ça des lettres étymologiques, pour qu'en fait, quand vous lisez le mot, eh bien, il s'imprime directement, et que quand vous voyez P-O-I-D-S...
On sait que c'est le poids...
Voilà, et que, par exemple, dans le conte... Computum, on sait qu'il y a un P parce que voilà, c'est le compte 1, 2, 3, 4, 5. Et puis il y en a un certain Robert Etienne qui était imprimeur royal au XVIe siècle, pour ne pas les nommer, donc Robert Etienne, qui lui, à un moment donné, s'est dit on va rajouter une lettre à poids P-O-I-D-S parce que ça vient de Pone Douce. Et en fait, il s'est planté parce qu'en fait, ça vient de Pensum. Donc en fait, on écrit en gros le poids P-O-I-D-S avec une faute d'orthographe depuis 400 ans.
Alors Julien Barré, vous, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes un grand amateur de stand-up. L'humour à l'oral, c'est très difficile. Soit ça passe, soit ça casse. Pourquoi c'est si clivant ?
Il y a plusieurs raisons qui expliquent ça, mais principalement, c'est fondé sur des codes sociaux, des codes générationnels. Pendant longtemps, j'ai fait des critiques de stand-up pour le site du Pariscope et pour mon site Critique Comique. Donc j'ai vu plein de spectacles. Et au bout d'un moment, quand le stand-up est arrivé vers les années 2003, on a vu une série de spectacles différents, un peu... comme des cibles marketing. Il y a des spectacles pour les vieux, c'est le Caveau de la République, théâtre, j'allais dire la Huchette, mais non, les deux ânes, etc. C'est des vieux chansonniers à l'ancienne, tels que, par exemple, ils sont parodiés par... comment il s'appelle ?
Guy Devos.
Ouais, par exemple. Enfin, Guy Devos, lui, il incarne aussi bien une modernité. Vous avez le stand-up qui est plus... communautaire, un peu banlieue, il va y avoir certains trucs qui vont être plus provinciaux, etc. Et donc, chaque humoriste va faire rire en fonction de sa cible, des gens excluant de ce fait d'autres personnes. Par ailleurs, le processus même du rire, tel qu'il est décrit par Bergson notamment, le philosophe du 19e siècle, c'est aussi de mettre les rieurs de son côté. Donc de ce fait, vous excluez souvent quelqu'un et vous essayez de faire un mot d'esprit qui a un truc de connivence, un clin d'œil. Et
donc il y en a qui ne saisissent pas. Vous nous déconseillez l'humour ?
Non, l'humour.
Non, c'est tellement segmentant.
Non, l'humour. D'ailleurs, c'est aussi bien valable à l'oral qu'à l'écrit. Mais c'est beaucoup plus difficile de faire rire, je pense, que de faire pleurer.
Vous n'avez pas quand même un petit truc pour nous aider à faire des bonnes punchlines? D'ailleurs, on dit comment punchline en français, en fait, parce que c'est un mot anglais là. Donc, ça sera quoi là? Je vais faire une bonne punchline.
Un bon mot, tout simplement. Une réplique.
Le principe des emprunts. C'est dans quelle mesure l'emprunt correspond à un besoin nouveau. À mon avis, dans punchline, il y a une idée de punch, de box.
Dynamisme aussi.
Mais un petit côté, je te mets à terre aussi.
Voilà,
non ouais.
qui est nouveau. On pourrait parler de pointe, de trait d'esprit, de mot d'esprit.
De joute.
On retrouverait pas, pardon.
C'est un peu une joute, une punchline.
Ouais. La joute, c'est le dispositif où il y aura des punchlines qui vont être envoyées de part et d'autre. Pour faire des punchlines...
Moi, j'en fais jamais, je crois, des punchlines.
Moi, j'en fais tout le temps.
Ah oui, c'est vrai.
Et ça peut être...
C'est comme des slogans, un peu, une punchline.
Exactement, ça peut être un slogan publicitaire, ça peut être une formule, ça peut être une formule magique. Et vous pouvez avoir des doubles sens. Le nom même de votre émission repose sur un double sens.
Mais c'est pas moi qui l'ai trouvé.
Moi non plus.
Remercie Nadia.
Vous pouvez avoir des paraboles. Vous pourrez, par exemple, Booba, il dit « Si je traîne en bas de chez toi, je fais chuter le prix de l'immobilier
oui. ».
Vous pouvez avoir des bons mots, des traits d'esprit, comme souvent Audiard, les cons à Ostou.
Non, son père, Michel.
Michel Audiard. Les cons à Ostou, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Il y a pas mal de définitions différentes de la punchline, mais souvent, ça repose sur certaines figures de style, des doubles sens, des images, des métaphores.
Julien Soulier, on vient de dire punchline, stand-up. Qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée justement de ces anglicismes dans notre langue française? Ça vous ennuie, vous, l'ancien prof de français, ou pas du tout?
Vous m'avez achevé là. C'est exactement ce que dit Julien. Je pense qu'il faut les accepter avec discernement. C'est-à-dire quand ça correspond à un concept qu'on n'a pas, bien évidemment que ce soit un anglicisme ou même des termes...
Nous, on dit notre émission Feel Good, c'est de l'anglais aussi.
Ouais.
Il y a des auditeurs qui
apprécient parce que
pas.
Ça correspond aussi à un concept en fait qui n'existe pas forcément. Alors, pas forcément en français. Alors c'est vrai qu'il y a une commission de terminologie qui essaie de proposer des termes de remplacement, des équivalents, mais parfois ça prend par exemple buzz, le bouche à oreille. Moi je trouve ça un petit peu ridicule parce que buzz,
hashtag.
C'est monosyllabique, il y a le son, il y a la sonorité buzz. C'est,
hashtag, ça,
c'est quelque
ça
chose de frappant.
Bien, hein.
Hashtag, ouais, moi j'aime bien mot dièse, mais bon c'est vrai que...
Mot dièse.
Et puis il faut rappeler quand même que ce qu'on dit être des anglicismes, souvent ce sont des mots français que les Anglais nous ont piqué en premier.
Ah, existe ça, les francicismes?
Alors on dit les gallicismes en général.
On dit pas les francicismes.
Donc c'est effectivement... Mais par exemple, si vous prenez manager, manager, ça vient de ménager à l'origine en ancien français.
Ça vient de chez nous.
Ça vient de chez nous. Challenger ou challenge, ça vient du latin calumniare qui avait donné challenge en ancien français qui désignait un défi. Donc on a pas mal de mots comme ça.
Et performer,
en fait...
ça vient de performer, performare
du latin. Il y a énormément d'anglicismes qui en fait... sont des gallicismes, enfin des mots français ou d'anciens français que les Anglais nous ont piqués et que nous avons repris sous cette forme-là.
Et bien voilà, nous finîmes cette émission. C'est joli, ça s'appelle c'est le passé simple.
C'est le passé simple et vous le fites avec brio.
Merci Julien, merci pour cet entretien qui touche à sa fin. Pour ceux et celles qui voudraient en savoir plus sur les astuces pour bien écrire et parler notre langue avec style, je signale vos deux ouvrages, tous deux parus chez First Edition. Julien Soulier, votre livre c'est Les Pourquoi du Français et le vôtre Julien Barré, son titre c'est Parler avec style, à glisser dans tous nos cartables. On va s'intéresser à quoi, Julien, à présent?
Eh bien, dans le quart d'heure des biens...